6h, 8h30.
Matin Première.
Merci d'écouter la première, il est 7h46 et l'invité de Matin Première a sans doute ressenti la déflagration des explosions survenues à Beyrouth jusqu'ici à Bruxelles. C'est que si elle vit chez nous, elle est née là-bas, au Liban. Son père était même ministre de la Culture dans le gouvernement de Rafik Hariri avant de devenir conseiller spécial de Kofi Annan lorsqu'il était à la tête des Nations Unies. Louma Salamé a fui la guerre civile avec sa famille. Elle était toute petite lorsqu'elle est arrivée à Paris. Des études dans de prestigieuses écoles d'art, un passage au Guggenheim à New York, au Louvre à Abu Dhabi, à l'Institut du Monde Arabe, on est à nouveau à Paris. Et puis aujourd'hui, elle dirige la Fondation Bogossian dans la somptueuse Villa en Pin, avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles. Bonjour Louma Salamé.
Merci beaucoup pour cette introduction, bonjour à tous.
Vous les avez ressentis jusqu'ici, ces déflagrations, Louma ?
Oui, je ne peux pas vous cacher que naturellement... Les événements qui ont eu lieu ces derniers jours à Beyrouth ont été évidemment traumatiques pour tous les Libanais, mais aussi tous les Libanais de l'étranger et pour le monde.
Est-ce que vous avez encore de la famille, des amis sur place? Comment vont-ils?
Alors, comme vous l'avez dit, je suis née à Beyrouth et j'ai quitté très jeune, j'avais 2 ans. Néanmoins, j'ai toujours gardé une relation très proche avec le Liban. J'ai des amis, j'ai de la famille. J'ai l'habitude de prendre mon fils chaque année à Beyrouth. Donc j'ai vraiment le plaisir d'y aller très souvent. J'y suis très attachée.
Et du coup, vos amis, ils vont bien aujourd'hui? Vous avez eu l'occasion de les contacter?
Alors voilà, peut-être pour vous expliquer, peut-être en désolidarisant un petit peu les temporalités, il y a eu d'abord le jour d'avant, c'est-à-dire la situation au Liban telle qu'elle était aujourd'hui avant l'explosion, qui était une situation épouvantable, délétère. On pensait déjà qu'on était au pire du pire, et je pourrais vous expliquer plus en détail pourquoi.
Et donc, on va en parler, bien sûr. Oui.
La situation était déjà absolument tragique. On ne pensait pas qu'on pouvait faire, je dirais, mieux dans le pire. Et puis, il y a eu évidemment aussi la soirée avec l'explosion, avec ces images d'apocalypse, ces images de science-fiction, de films d'horreur, qui ont été évidemment un choc pour tous. Et il y a eu le jour d'après, donc c'était hier, le jour d'après où, moi personnellement, j'ai craqué hier, parce que c'est le jour où on a eu l'émergence de milliers de témoignages individuels, de petits malheurs personnels qui ont émergé. Donc c'est tel ami qui a le bras cassé, l'autre qui est à l'hôpital pour des points de suture, une amie médecin dont le cabinet s'est effondré sur elle, évidemment des appartements dévastés. J'ai reçu des photos depuis 2 jours d'appartements de tous mes amis. L'appartement de ma mère ne ressemble plus à rien. Donc c'est vrai que ça a aussi été une autre journée épouvantable, tout à fait différente dans la narration. Mais finalement, voilà, ça a été le recueil, la collecte de petites histoires épouvantables.
Mmh. C'est vrai qu'au-delà des morts et des blessés, ils sont déjà très nombreux, trop nombreux. Il y a aussi, on parle de 300 000 personnes qui sont sans toit aujourd'hui suite à ces explosions. Louma Salamé, plusieurs manifestations de soutien ont déjà eu lieu aux quatre coins du monde, notamment chez nous, à Bruxelles, près de la Bourse hier. Écoutez ce que disait cette jeune femme libanaise rencontrée par Mélanie Joris.
La ville est détruite. Quand j'ai vu les photos de Beyrouth, en 2 minutes, ça a devenu le Beyrouth de 1989. La destruction, toute la ville était détruite avec un bombe.
Je le disais en introduction, vous avez quitté le Liban pour fuir la guerre avec votre famille. C'était en 1983, vous aviez 3 ans. Est-ce que vous vous souvenez de la guerre et est-ce que les images de Beyrouth dévastées aujourd'hui vous rappellent telle cette guerre en quelque sorte, ou ce qu'on a pu vous en raconter peut-être?
Alors j'avais 2 ans en partant et je n'ai aucun souvenir de la guerre. Néanmoins, j'ai beaucoup de photos de moi bébé, donc à cette époque, notamment nous étions avec ma sœur cachés dans la salle de bain qui était l'endroit le plus sûr de l'appartement. Donc on a beaucoup de photos de famille, de cachettes en fait pendant la guerre, mais moi je n'ai aucun souvenir de l'époque. Maintenant la comparaison avec la guerre civile, elle est un peu délicate, oui. Parce que j'ai l'impression que les gens qui m'ont écrit hier, qui m'ont appelé, m'ont dit que c'était pire que la guerre. Ils ont tous dit que c'était pire que les bombardements, que voilà, le ciel leur tombait sur la tête et qu'ils avaient l'impression de vivre en enfer. et que la guerre civile qui a duré 15 ans, de 1975 à 1990, a été très longue et il y a eu des petits moments d'accalmie. D'ailleurs, j'avais l'habitude de pouvoir aller à Beyrouth quand ça se calmait, même pendant la guerre. Là, on parle d'une explosion sans précédent. On parle de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui se sont déversés sur la ville. Pour vous donner une comparaison, Toulouse, il y a 20 ans, on était sur 300 tonnes de nitrate d'ammonium.
L'usine ASF qui avait...
De l'usine ASF, exactement. Et là, on a, donc, je ne sais pas si vous imaginez, 2750 tonnes, c'est 27 750 kilos de produits chimiques qui sont entreposés en plein centre-ville. Donc, avant même de se poser la question de savoir si cet événement et cet incident catastrophique est accidentel ou pas accidentel, parce que les questions se posent aujourd'hui, avant de se poser cette question-là, on se demande avant tout comment est-ce possible qu'on ait entreposé une telle quantité de produits chimiques en plein centre-ville.
Et du coup, c'est vrai qu'après le choc de cette explosion, après la stupéfaction face à ces terribles images, la colère, elle gronde, cette colère dans le cœur des Libanais, Louma Salamé. Vous la comprenez, cette colère?
Oui, donc c'est peut-être pour revenir sur le jour d'avant. Vous avez un Liban qui, depuis octobre dernier, donc bientôt un an, vous avez un mouvement populaire qui réclame, qui proteste en masse pour la démission du gouvernement. Vous avez une monnaie qui a été dévaluée à 80%. Vous avez maintenant l'électricité et le gaz qui sont limités pour tout le monde. Vous avez le chômage qui a grimpé d'une façon absolument démesurée, stupéfiante. Et puis le coronavirus qui est venu s'ajouter comme une nouvelle plaie sur ce pays et sur le monde. Donc on était déjà dans un scénario apocalyptique. Aujourd'hui, la colère était déjà là, le désespoir était déjà là. On arrive dans une... On était sur le bateau Titanic, aujourd'hui on est au fond des abysses. On était au bord du gouffre, aujourd'hui on est dedans. J'ai beaucoup... Les gens disent que tous leurs rêves se sont arrêtés, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'ils sont seuls au monde. On est au-delà, les gens sont désemparés, il y a très peu d'espoir.
Je vais vous lire à présent, Louma, l'extrait d'un texte qui a été publié par l'une de nos collègues sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Joy César, elle est belgo-libanaise et elle met en lumière ce que vous êtes en train de nous expliquer par ces mots. Les voici. Il faut que vous sachiez que cette colère gronde depuis trop longtemps dans le cœur des Libanais d'ici et d'ailleurs, que ces centaines de milliers de personnes qui manifestaient depuis octobre contre la malgouvernance et la corruption des dirigeants politiques sont aujourd'hui les victimes ensanglantées de ce terrible accident causé par la négligence coupable de ces mêmes autorités. Il faut que vous sachiez que depuis plusieurs mois, le Liban a sombré dans un gouffre sans fond. La révolution d'octobre, qui devait enfin libérer le pays de ses clans mafieux, a eu pour effet pervers de pousser ces derniers à s'accrocher plus que jamais au pouvoir. Vous êtes d'accord avec elle? Vous êtes d'accord avec Joy César?
Oui, absolument. La classe politique libanaise n'est pas connue pour sa probité légendaire, on peut le dire comme ça gentiment. Ce sont des gens qui sont accrochés au pouvoir et qui ne veulent pas le lâcher. Ce sont des gens qui sont là depuis la guerre. Le pays est à bout.
Écoutons alors à présent la politologue Jeanne Sfer, interrogée par Wahoub Fayoumi.
La colère de la population, la rage de la population et le dégoût de cette classe politique montrent bien que le gouvernement, le président de la République, les élites politiques qui sont les anciens seigneurs de la guerre qui sont toujours là, et la corruption de ces élites politiques qui règnent à la tête de cet État doivent changer.
Doivent changer, mais comment faire changer les choses, Louma Salamé? Votre père, Hassan Salamé, a été ministre de la Culture au Liban, dans le gouvernement, je le disais tout à l'heure, de Rafik Hariri. Quel regard porte votre famille et vous-même sur l'évolution de la politique libanaise?
Alors je n'oserais pas parler au nom de mon père. Néanmoins, bien entendu, je crois que tout le monde partage une tristesse infinie par rapport à la situation actuelle au Liban, situation qui ne cesse de se dégrader dans des proportions qu'on ne pourrait même pas imaginer. C'est une tristesse immense qui nous unit face à la situation.
Rafik Hariri, il est mort dans un attentat en 2005. Le jugement du tribunal spécial pour le Liban devait être rendu demain. Les accusés de cet assassinat sont affiliés au Hezbollah. Ce jugement, finalement, il est reporté au 18 août en raison des récents événements survenus à Beyrouth. Est-ce que vous comprenez ce report et est-ce qu'il est important d'avoir le fin mot de cette histoire? Les tensions, elles sont toujours vives autour de cet événement important survenu en 2005, il y a 15 ans donc.
Écoutez, l'assassinat de Rafik Hariri a eu lieu donc il y a 15 ans et depuis, il y a ce qu'on appelle le procès à 1 milliard de dollars. Donc c'est un procès qui a pris 15 ans et 970 millions de dollars pour avancer, quoi. Et donc ce procès, les Libanais étaient suspendus, évidemment, au verdict qui allait être rendu pour le tribunal spécial pour le Liban, par le tribunal international, suspendus à ce verdict pour savoir si, effectivement, ces quatre hommes accusés de l'assassinat de Hariri, qui sont membres présumés du Hezbollah, ont été ou pas à la manœuvre. Le calendrier de cette explosion est tout à fait étonnant. On attendait, voilà, vendredi, le résultat de ce tribunal, et aujourd'hui, vous avez la moitié de la ville de Beyrouth qui a été décimée. C'est effectivement un agenda très chargé pour le Liban, un pays très attentif aux révélations de la vérité, ou en tous les cas de comprendre mieux ce qui se passe.
Bien sûr. Aujourd'hui, votre engagement, Louma Salamé, se trouve notamment dans le fait de vouloir rapprocher les cultures d'Orient et d'Occident, à travers l'art notamment. Art is the answer. L'art est la réponse à la devise de vos oncles, Jean et Albert Bogossian, frères de votre mère, Marie, et du nom de la fondation, bien sûr, que vous dirigez aujourd'hui à la Villa Ampin, à Bruxelles. Est-ce que vous pensez d'une certaine façon qu'aujourd'hui aussi, l'art est la réponse? Est-ce que la culture peut aider à réparer un pays?
Alors, heureusement, oui. Je le pense et je crois que c'est vrai. On en a des preuves chaque matin à la Villa Ampin. Donc, effectivement, la Fondation Bogossian est une toute jeune institution qui célèbre cette année ses 10 ans. Et sa mission est assez unique, c'est celle de rapprocher, en fait, les cultures d'Orient et d'Occident. Et on le fait de manière très pratique, très réelle, au quotidien. Par exemple, on a un lien très fort avec les artistes libanais. On avait monté une exposition d'un artiste, Grégory Bouchak-Jean, qui s'appelait Habitat abandonné de Beyrouth. On a une exposition qui arrive là le début septembre sur la ville d'Alep, donc cette ville millénaire, l'histoire justement aussi de ces destructions. On a une résidence d'artistes dans laquelle on reçoit beaucoup d'artistes, notamment en provenance du Liban. On avait un écrivain, Oliver Roé, qui a beaucoup écrit sur la guerre civile libanaise, avec lequel on a fait des lecture. Au quotidien aussi, à Beyrouth, on a une action, on donne un prix aux jeunes artistes chaque année. On soutient des écoles arméniennes, libanaises. On soutient aussi des initiatives humanitaires. Au quotidien, en tous les cas, ma perception du musée, c'est que c'est toujours un outil politique. Alors peut-être pour rendre hommage à mon père, c'est aussi un outil de diplomatie. Donc vous êtes dans un lieu dans lequel on peut réunir des gens, on peut créer une histoire. Je vais vous donner un exemple tout bête. On organise par exemple un concert avec une communauté turque et arménienne, et les gens à 11h du soir ne veulent plus partir, les applaudissements, etc. On ferme les portes à 1h du matin parce qu'ils sont très heureux. Voilà, donc ce sont des vrais moments d'émotion qu'on arrive à créer, des moments de dialogue.
Merci beaucoup Louma Salamé d'avoir été notre invitée aujourd'hui dans Matin Première, et je profite de votre venue pour annoncer, vous en parliez, la prochaine expo dont vous êtes la commissaire à la Fondation Bogossian. Ça s'appelle The Lighthouse et c'est à découvrir à partir du mois de septembre. On vous souhaite une excellente journée. Voici qu'arrive le journal de 8h sur la Première.
Travelling sur la Première.
Catherine Fatbert vous raconte la petite histoire d'un chef-d'œuvre du cinéma.
Nous chanterons le temps des cerises.
Anecdotes, archives, extraits, Travelling vous emmène sur le tournage des films cultes.
Aujourd'hui, Casque d'or.
Les belles auront la folie en tête et les amoureux.
Travelling
de 14h à 15h sur la Première.
Et quand vous voulez sur Ovio.